Néhémie, chapitre 1. On va lire le chapitre et on va ensuite se lancer dans parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits, que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole, merci pour ce livre, Seigneur Dieu, ce que ça nous raconte et qu'est-ce que tu as fait dans ce temps-là, dans les cœurs et dans la vie des gens et de ton peuple, Seigneur Dieu. On te prie que tu puisses toucher chacun de nos cœurs, ce que tu veux dans nos cœurs et ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux dans nos vies, Seigneur Dieu, à commencer avec le salut puis ensuite le service. Seigneur, on te prie, aide-moi de bien communiquer droitement le sens de ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc, Néhémie, le combattant constructeur, on va voir justement qu'il va être un outil que Dieu va utiliser pour reconstruire les murs de Jérusalem et en un temps quasiment record. Alors, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, vous allez dire, mais c'est quoi Kisleu? C'est où? Suse. Dans la capitale, mais la capitale de quoi? Là, on est dans la région de la capitale de Guyane, Cayenne, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas la capitale de Guyane. Mais justement, donc là, on va retourner au début. 5700 avant Jésus-Christ, à peu près, la création. Ça, c'est vraiment, on va se mettre dans le contexte, à commencer avec le commencement. Donc, 5700 ans avant Jésus-Christ, ça, c'est à peu près il y a 7000 ans, à peu près, là. 3400 ans avant Jésus-Christ, c'était Noé. Noé, donc le déluge. Donc là, à peu près 200 ans après, il y avait le déluge. Là, à peu près 1200 ans après le déluge, Abraham. Dieu a choisi Abraham pour en faire un peuple, pour qu'il aille dans le pays promis. Et qu'il se multiplie. Ben lui, il s'est multiplié un peu avec ce que Dieu lui a donné. Isaac, ensuite Isaac a eu 2, et ensuite Jacob en a eu 12, et ensuite là c'est devenu des millions avec quelques centaines d'années. 1500 ans avant Jésus-Christ, Moïse et l'exode d'Égypte. Donc de Abraham à Isaac, Jacob, il y avait quelques centaines d'années là. et Joseph, et ensuite 400 ans d'esclavage en Égypte. Là, ensuite, la période des juges, etc. Saül, le premier roi, à peu près vers 1050 avant Jésus-Christ. Ensuite, David, le roi, Salomon. Et là, à cause du péché et de l'abandon de Salomon vis-à-vis de Dieu, eh bien, Dieu a divisé la monarchie, le royaume. Et là, donc, beaucoup de rois en Israël du Nord, beaucoup de rois en Israël du Sud, de Juda, comme on l'appelle. 722, la fin du royaume du Nord. Le Juda a continué un peu plus longtemps. 605, là, le début des 70 ans d'exil. Et la destruction de Jérusalem et du Temple en 586. Là, 538, avec Cyrus le Perse, fin donc de l'exil. Là, vous allez dire, il n'y a pas 70 ans. Bon, il y a un petit peu de jeu des deux côtés. C'est aussi, en tout cas, c'est un peu plus complexe, mais à peu près, ces dates sont un peu approximatives. Fin de l'exil et premier retour et début de reconstruction du temple. Là, c'est un début, parce qu'il y a eu une pause. On lit ça dans Esdras. Il lit Esdras, quand il retourne, il recommence à construire, il y a une pause, il recommence à construire après. Là, on arrive vers... c'est dans le début d'Esdras, là. Ensuite, de deuxième retour sous Esdras. Le livre d'Esdras prend le nom de Esdras, qu'on voit seulement à partir du chapitre 7. Donc, c'est là que 458. Et là, 444, là, on a comme quasiment une centaine d'années après la fin de l'exil, là. C'est quand même... ça en est passé des décennies. Mais c'était lent. C'était lent à retourner, c'était lent à reconstruire le temple. C'est lent. Les murs sont encore dans l'opprobre, comme il dit. Les murs de Jérusalem sont encore détruits, n'ont jamais été reconstruits. Là, le retour, c'est, ils ont reconstruit le temple au milieu de la ville, mais la ville est toujours à la merci de n'importe qui, parce qu'il n'y a plus de murs, il n'y a plus de protection. Et c'est là donc qu'on est rendu. Donc, c'est là que Néhémie, il est un homme qui craint Dieu, il est serviteur de Dieu, mais il est toujours en exil, mais son cœur est à Jérusalem. Et là, il s'informe à son frère qui était revenu, qui était là-bas et qui est revenu, et qui l'informe. Donc là, il dit au mois de Kislev, et là, les Juifs ont d'autres noms de mois que nous. La 20e année, ça c'est le roi Artaxerxès, le roi principal, que Néhémie, il est dessous. Là, Artaxerxès, je pense à ça, j'ai pas les notes que je voulais avoir devant moi. Je vérifie ça. C'est pas, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, là, sous Zorobabel, c'est dans Esdras qu'on voit ça. Esdras 1 à 6. Il commence à reconstruire le temple en 538. Il le finit seulement en 515. Il y a une période de pause entre les deux. Agé, on le voit dans le livre d'Agé dans la Bible. Et Zacharie aussi, on lit à propos de ce qui se passe là, dans ce temps-là, sous, dans le livre de Zacharie. L'histoire d'Esther, j'espère que vous l'avez lu. Eh bien, Esther se passe un peu dans cet interlude où ce que on lit rien à propos de ce qui se passe au Juda à ce moment-là, mais c'est dans ces années-là. Alors, je pense que là, il y a une erreur de... C'est 500... En tout cas, là, je vérifierai ces chiffres-là. Sous Esdras 7 et 10, là, le sacrificateur, le scribe Esdras revient. Réforme du peuple, il se retourne vers Dieu pour vraiment devenir sérieux de nouveau. Pardon. Là, ensuite, après Esdras, là, il y a une période de 12 ans. Et là, ensuite, Néhémie, qui en entend parler et que Dieu permet qu'il retourne et recommence à reconstruire les murs là et les finit en 52 jours. Donc on va voir ça. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est après cela, après Néhémie. Et c'est dans ces années-là, à peu près, là. Là, ensuite, il n'y a plus de prophètes. Dieu n'envoie plus de prophètes en Israël pour 400 ans jusqu'à Jean-Baptiste. Donc là, il y a 400 ans de silence entre les deux, l'Ancien Testament et le Nouveau, pour vraiment marquer la fin de l'Ancien et pour préparer les gens à maintenant l'accomplissement des promesses, le début de l'accomplissement, parce que le Nouveau Testament, ce n'est pas tout l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien, c'est une bonne partie, c'est la première venue de Jésus, c'est maintenant le sacrifice est fait sur la croix, la résurrection, et maintenant Jésus devient la lumière du monde, mais le retour en gloire, pas encore. Le rétablissement d'Israël, pas encore. Donc le Nouveau Testament, on voit un début des accomplissements des prophéties de l'Ancien. Maintenant, ça se passe où ? Suse, c'est où ça, Suse ? Eh bien là, c'est une carte du Moyen-Orient. On a Israël ici, Juda, Jérusalem, l'Égypte ici. Là, aujourd'hui, il y a le Liban au-dessus de Juda, il y a la Syrie, il y a l'Irak par ici, Iran ici. Eh bien justement, aujourd'hui, dans l'Iran de l'Ouest, Susa. Donc, c'était la capitale de la Perse à ce moment-là. Et un roi perse, donc, est en train de régner. C'était l'empire perse, Mède et Perse. Les Médis étaient ici. Élam, c'est... on le voit aussi dans la Bible. Donc, c'est l'empire. Donc, Susa, donc c'est loin. Là, le voyage que Néhémie va faire au chapitre 2. On ne va pas le voir ce soir. Mais là, il retourne à Jérusalem, un long voyage. Donc, Jérémie. Question ?
Jérémie,
oui, c'est un surnom de Néhémie. Non, Néhémie, voilà. Un homme avec un fardeau d'abord. On voit qu'il prend à cœur la situation au verset 2 et 3. Donc son frère lui dit, ceux qui sont restés, verset 3, ceux qui sont restés de la captivité, ils sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et Néhémie aurait pu dire, ah, c'est dommage. Puis ensuite retourner à ses occupations. Hein? Bon, combien d'entre nous n'avons pas fait ça? On entend une mauvaise nouvelle, mais ça ne nous touche pas de près ou ça ne nous touche pas personnellement. Alors bon, on en est triste sur le moment. On en est triste peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures. Mais à part ça, bon, on retourne à notre... On retourne à nos occupations, à nos responsabilités, etc. Mais là, Néhémie le prend à cœur vraiment, et là, ça change des choses. Verset 4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux, et je dis. Donc là, il le prend vraiment à cœur, plusieurs jours, il jeûne. Il n'y a plus l'appétit, et ce n'est pas vraiment qu'il n'a plus l'appétit, mais. Probablement qu'il n'avait pas un grand appétit avec cette nouvelle. Hein. Parfois, quand on entend une mauvaise nouvelle, on en a le mal de cœur, puis on n'a vraiment pas le goût de manger. Mais là, il y a plus que ça. Il y a le fait que là, il y a une cause. C'est la ville de Dieu, et on le voit dans la prière. C'est la ville de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est invoqué sur cette ville. Verset 9, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Là, Néhémie, il cite ça pour le dire à Dieu, là. Dieu, pourquoi je te prie tellement pour cette ville? C'est une ville qui était importante. Tu as dit toi-même, tu vas y faire résider ton nom. Et là, le temple est déjà reconstruit, mais la ville est dans la ruine. Il le prend à cœur. Et là, il y a plusieurs mois qui passent. Hein. Chapitre 1 au mois de Kisleu et chapitre 2 au mois de Nissan. Là, c'est à peu près 2-3 mois. En nos termes de mois. Les mois juifs sont sont plus courtes, c'est des mois lunaires. Et l'occasion, il rajoute un mois pour que, autrement, si on avait des mois juste de 28 jours, à un moment donné, le soleil ne correspond plus avec les saisons des mois, parce que, fait qu'à l'occasion, là, il met un autre mois complet. Fait que c'est comme ça se décalait plus, puis ensuite ça revient. Mais, fait que, par rapport, c'est pour ça que la Pâque, dans notre calendrier, ça peut varier beaucoup, parce que ça peut être en fin mars, ça peut être en quasiment fin avril, mi-avril, il y a quasiment un mois de jeûne. Ben, c'est parce que Pâques, c'est une fête juive, et dans leur calendrier, il y a parfois des gros changements, là, parce qu'ils rajoutent un mois complet pour revenir avec le décalage de l'année solaire vis-à-vis des 12 mois lunaires, donc il y a un décalage qui se fait peu à peu. Nous, on a 365 jours, on a des mois de soit 28 jours, ça en est juste un, 30, 31, et comme ça, on a ajusté un petit peu l'année. Et tout ça pour dire qu'il y a quelques mois qui se passent, parce qu'il prend du temps. 4 mois de préparation, un homme pas impulsif ni précipité. On voit qu'il a préparé son affaire. Qu'est-ce qui nous dit qu'il prépare quelque chose? À la fin du verset 11, dans sa prière, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Donc, là, c'est un peu sous-entendu, mais on va le comprendre un peu plus au chapitre 2. Néhémie, il a une idée, il a un plan, il prie. Dieu veut qu'on prie, qu'on dépende sur lui, mais ensuite qu'on soit prêt à agir. Et Dieu le mettait à cœur de retourner. Mais il n'était pas libre de retourner, il était les chansons du roi. Il avait un travail, il avait une responsabilité, et il va humblement demander la permission là, de faire quelque chose à ce propos. Et sa tentative qu'il va faire avec le roi, elle est complètement mise devant Dieu, là, complètement mise au pied de Dieu, dire Dieu, je te demande de toucher son cœur et de lui permettre de me laisser aller. Donc on va voir, mais là c'est la préparation, donc il prend du temps, j'ai été plusieurs jours dans la désolation. Là, est-ce que vous pensez qu'il a fait ses devoirs de lire la Bible pour réclamer les promesses? Oui. Peut-être qu'il les avait déjà préparées, mais là, peut-être qu'il les révise, mais on voit qu'il est bien à jour dans les promesses qui s'appliquent à la situation. Dieu, regarde ta ville, qui est invoquée, ton nom est invoqué dessus, c'est dans l'opprobre. Et c'est dans l'opprobre parce que c'est nous qui avons péché, c'est nos pères qui ont péché. Là, les pères, oui, c'est 100 ans avant, c'est 150 ans avant, presque 200 ans avant. Mais ils s'incluent là-dedans, c'est en tant que peuple, c'est nous qui avons péché. C'est nous là, on a mérité que tu nous envoies en exil. Et là, c'est pour la cause de ton nom. Mais là, tu dis dans ta parole, si nous revenons, si ton peuple revient, eh bien Dieu, là, je reviens. Je reviens à toi, je fais partie du peuple, et là je reviens, je te demande pour ton compte d'avoir pitié et de permettre que Jérusalem ne soit plus dans la honte, etc. Donc on voit que il a préparé la chose. Il ne s'est pas précipité. Il a retourné faire ses devoirs. Il a relu les promesses, bien familiarisé avec. Donc, un homme pas impulsif ni précipité. 4 mois de préparation. Un homme de prière. Donc là, il prend le temps de prier. Pensez-vous qu'il a prié jusqu'après 4 mois? Non, il a commencé à prier, il a continué à prier tout au long. Là, il résume. Versets 4 à 11, on voit que c'est un peu un résumé. Parce qu'il dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la prison, et je jeûnais, et je dis. Donc là, c'est quasiment comme ça introduit qu'il a commencé à prier, quand il a entendu là, cette nouvelle. Mais la fin de la prière, ça nous introduit au chapitre 2. Donc, c'est un peu comme un résumé de prière. C'est certain que pour 4 points de prière, il n'a pas écrit toutes ses prières. Mais il nous en donne le résumé. Et on voit que, qu'il s'attarde à chercher la face de Dieu. Psaume 27, le psalmiste dit, mon cœur dit de ta part. C'est comme je sais au fond de moi que tu veux qu'on cherche ta face. Psaume 27, versets 7 et 8. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Donc, David savait, Dieu aime ça qu'on cherche sa face. Eh bien, Néhémie a cherché la face de Dieu. Il a pris le temps de prier. Mais la prière va de pair avec le livre des livres, la Bible. Et c'était un homme du livre aussi. Il cite. Dieu aime ça qu'on cite sa parole. Dieu, tu dis telle chose, je te le réclame. Dieu, tu dis telle chose, je m'y fie. Je te fais confiance. Dieu, il aime qu'on le prenne au mot. C'est comme ça qu'on peut être sauvé. On ne peut pas être sauvé sans le prendre au mot. 1 Jean 5, 10, très clair qu'on doit prendre Dieu au mot sur vraiment son salut. 1 Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Si on ne prend pas Dieu au mot, quand Dieu dit quelque chose, puis on le prend, c'est parce qu'on est en train de le traiter comme menteur. Hein. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, puis on ne le croit pas, et alors, celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie en éternel et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On ne peut pas venir à Dieu pour le salut sans le prendre au mot. Dieu, on te prend au mot. Tu dis la vie est dans ton Fils. Celui qui croit au Fils, celui qui se confie dans le Fils, celui qui met toutes ses attentes dans le Fils, il a la vie éternelle. Alors là, on peut savoir qu'on a la vie éternelle. On prend Dieu au mot. Mais Dieu ne veut pas qu'on le prenne Dieu au mot simplement pour le salut. Dieu veut qu'on continue à le prendre au mot. Et là, on voit que Néhémie, il a pris le temps de lire pour réclamer les promesses. Quelles promesses est-ce que nous, on réclame? Quelles promesses avez-vous réclamées dans vos prières dernièrement? Bon, Dieu, il veut que vous vous imbibiez de la Bible pour ensuite pouvoir le prier, chercher sa face pour dire, regarde Dieu, je me confie dans, tu dis telle chose, ben là, je te le réclame. Là, je me confie dans cette promesse-là. Sur la base de ta promesse, voici ce que je te demande. Et ça, Dieu aime ça. Dieu veut ça. Et Néhémie, il l'a fait. Il prend responsabilité aussi de sa parole, comme il dit. Tu as dit là, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment pour, en confessant les péchés de ton peuple, nos péchés contre toi, etc. Nous t'avons offensé, nous n'avons pas observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. La parole de Dieu inclut plus que les promesses, ça inclut les commandements. Dieu veut qu'on vienne devant lui quand on reconnaît si on a brisé ou non ses commandements, qu'on l'avoue. Si on réclame ses promesses sans avouer notre transgression vis-à-vis de ses commandements, bon, ça va nulle part. Mais on comprend. Et on lit sa parole, son livre. On comprend qu'il y a des commandements. On reconnaît ou non si on les a transgressés. On les avoue devant Dieu. Et ensuite, on peut réclamer ses promesses. Donc, ensuite, il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnes à Moïse. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Alors, il dit, Dieu, tu l'as dit. Et c'est ce que tu as accompli. Mais maintenant, tu as écrit aussi que tu vas les ramener. Et je vous ramènerai. Si... quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Alors, il dit, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements, alors quand vous serez exilés. Donc là, il réclame sa parole. Alors, il nous prépare pour le chapitre 2, qu'on va voir la semaine prochaine. Donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Donc il lui demande, « Fais-moi. » Là, il parle de lui-même aux troisième personne. À la troisième personne, parce qu'il donne à ton serviteur, ça c'est lui-même. « Donne-moi, ton serviteur, du succès. Donne-moi de trouver grâce devant cet homme. » Et qui est cet homme? Eh bien, c'est le roi. On va voir ça la semaine prochaine, chapitre 2. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce chapitre. Seigneur Dieu de Néhémie, Seigneur, merci pour Néhémie qui le prend à cœur. Il prend ta cause, il prend ta gloire, il prend ton honneur à cœur. Il reconnaît qu'il fait partie d'un peuple qui a brisé cet honneur, qui a transgressé ta parole et qui est en plein opprobre, Seigneur Dieu, à cause de leurs actions. Mais Seigneur Dieu, merci qu'il revient à toi et il prie et il réclame la promesse que tu les rétablirais et que tu puisses donc ouvrir la porte pour son désir de faire quelque chose à propos des murs qui sont détruits. Merci pour l'exemple de Néhémie. Seigneur Dieu, merci qu'il te craignait, qu'il connaissait ta parole, qu'il cherchait ta face, qu'il a pris à cœur ta gloire. Et on te prie que tu puisses toucher nos cœurs. Seigneur, ton œuvre est faible, ton œuvre, Seigneur Dieu, n'est pas développée et que ça puisse nous tenir à cœur, Seigneur Dieu, que ça puisse nous causer de chercher ta face, que ça puisse nous causer de vraiment jeûner devant toi et qu'on puisse vraiment avoir à cœur de prier pour ton œuvre en Guyane, Seigneur Dieu, ton œuvre puisse avancer, que les cœurs puissent se convertir, Seigneur Dieu, des gens qui se convertissent de cœur à toi et que ton Église soit agrandie et établie et pour envoyer des missionnaires encore plus loin, parce qu'il y a encore des places qui n'ont jamais encore entendu parler de Jésus. Seigneur, on te prie donc que tu puisses sonder nos cœurs et voir ce qui y est et le besoin, que ce soit le salut, que ce soit la croissance, que ce soit la sanctification. Seigneur, on te prie que tu puisses continuer à travailler dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment devenir ce que tu veux qu'on devienne, Seigneur Dieu, pour ta gloire. On te prie au nom de Jésus. Amen.